Six and Daz, premier épisode.
Premier épisode officiel.
Officiel. Ça officiel. Y est. On y a pris tous les retours.
Tous.
Mais tous. Les gens qui ont analysé la première émission, qui nous ont fait des retours très constructifs sur l'écho, la réverb et le son globalement.
Qui était volontaire. Hein.
Attention. Oui, c'était volontaire parce que c'était ton appart.
Voilà.
Voilà. Et que t'aimes bien quand toi, il y a de la reverb.
J'aime bien quand il y a de la reverb.
Voilà. Donc, on a pris en compte tous les retours et du coup, là, on sort un son de qualité. Avec de la reverb organique. Avec un réal de qualité puisque c'est Ghislain qui nous accompagne. Je suis toujours Daz accompagné de Six et je crois même que c'est le contraire. C'est plutôt Six qui est accompagné par Daz. Voilà, non, je préfère comme ça. Parce que après le premier épisode, le pilote, oh là là, le pilote où on parlait d'un petit rappeur indé, vous allez voir qu'on continue dans les rappeurs qui malheureusement n'ont pas trop percé, ne sont pas très connus du grand public, mais c'est aussi ça la richesse podcastique de qualité.
Exactement.
Mais avant ça, il faut quand même qu'on annonce un truc.
Petite surprise quand même.
C'est qu'on a complètement siphonné le Patreon de qualité pour avoir un jingle officiel. Et le jingle, Ghislain, il va vous le balancer. Vas-y, Ghislain. Welcome to the show. Six and Daz Hip Hop Show. Bringing you the best. Bringing you the best in hip hop. DJ turn it up. Oh yeah. Ah yeah.
Oh là 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 là.
Quelle lourdeur. Quelle lourdeur. Je ne me lasse pas d'entendre ce jingle. Je sais pas ce que t'en penses, Six, hein, mais
Bah écoute, on a tout hypothéqué.
Ouais,
enfin, moi j'ai rajouté de ma poche.
Il a rajouté de sa poche. Voilà, Six a rajouté de sa poche. Parce que ce jingle-là, digne des plus grandes heures des radios hip-hop new-yorkaises,
nous a coûté
énormément d'argent. C'est pour ça qu'il faut donner au Patreon d'ailleurs. Mais bon, ça c'est fait. On a balancé le jingle.
Maintenant on peut annoncer, je pense, de l'artiste.
Vas-y, je sais qu'il te fait plaisir. C'est un petit rappeur indé.
C'est un petit rappeur indé qui a eu sa chance et malheureusement ça n'a pas fonctionné. Mais bon, ce sera 50 Cent aujourd'hui.
Voilà, un petit rappeur indé. Il a pas trop marché.
Voilà.
Comment tu dis 50 Cent ?
50 Cent.
Ah, je connais pas trop.
50 Cent. Okay. Ouais.
50 Cent, donc voilà, pour ce premier épisode de Six and Daz, on rebalance le jingle.
Allez, vas-y. Welcome to the show. Six and Daz Hip Hop Show. Bringing you the best. Bringing you the
best in hip hop. DJ turn it up. Oh yeah. À chaque fois, Ghislain rigole à chaque fois qu'il lance le jingle. On va le lancer 50 fois dans cette émission. Alors, 50 Cent,
alors qui c'est qui
50 Cent, mais c'est qui 50 Cent
50 Cent, là c'est 50 Cent, là on change de quartier, puisqu'on était la dernière fois à Mercy Projects Brooklyn, et là, on va Jamaica Queens.
Oh,
Jamaica Queens, dans le Queens, forcément.
Voilà, normal.
Et alors, Jamaica Queens, c'est vraiment le bout du Queens. C'est vraiment, pour les souvenirs que j'ai, c'est quand on allait là-bas, on avait l'impression de sortir de New York, quoi. C'était l'arrêt, le dernier arrêt de la station de métro. C'était, et puis quand t'arrives là-bas, t'es dépaysé parce que t'es plus du tout à New York, c'est des petites maisons flattes, tu vois. On se croirait presque en Californie, tu vois. C'est vraiment des maisons.
Le climat en moins, mais ouais d'accord, c'est des petites baraques.
Ouais, c'est des petites baraques, les alignées, toutes les mêmes. D'accord. Tu vois. Et, bien sûr, là-bas, aucune délinquance.
quartier complètement
voilà,
sûr,
très résidentiel, très très résidentiel. Voilà. Et bon d'ailleurs que on en parlera, mais Curtis Jackson, donc de son nom 50 Cent. Et on peut d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi il s'appelle 50 Cent.
Mais pourquoi 50, pourquoi pas un dollar par
voilà exemple. Exactement, c'est toujours demandé, je veux dire, voilà exactement. Oui, tu sais, au moins, enfin je sais pas, au moins dans sa carrière on a pu monter, quoi. Ouais. Monter en gamme, comme on dit.
One dollar fifty.
Voilà.
Alors ouais, pourquoi 50 Cent du coup?
Et ben en fait il a pris le nom d'un petit gangster, un petit de New York d'ailleurs, qui s'appelait, je vais pas te dire de bêtises exactement, qui s'appelait Kevin Martin, donc il s'appelait 50 Cent. Alors à son actif, il a quand même une belle brochette de missions accomplies, puisqu'il a 30 alors il est accusé de 30 meurtres.
Ah, 30 accusé, meurtres. Ça veut dire qu'il est pas coupable.
Voilà exactement, c'est-à-dire qu'il a peut-être fait une petite dizaine à côté pour le kiff.
Ouais.
Et en fait, son slogan à lui, c'était il tirait pour n'importe quoi, même pour 50 Cent. C'était son
voilà, le mec te tue pour 50 cents. Voilà, bon. D'accord.
Et comme je t'expliquais, lui, je pense, dans son quartier, le jour où il est mort, ils ont fait une fête, quoi.
Ouais.
C'était vraiment le mec qui faisait chier tout le monde, fallait pas croiser, tu vois. Ils ont dû faire une fiesta. Et donc,
c'est un peu Dibo dans Friday, le mec qui braque ses voisins depuis toujours.
Exactement, c'est ça.
Mais du coup, alors c'est très original de prendre le nom d'un criminel reconnu comme nom de scène. Je me demande si un jour on aura des rappeurs qui prendront le nom, je sais pas, d'un peintre impressionniste ou
Monet. Ouais. Il est là, nouvel album de Monet.
Monet. Oh, on a bien Zola. On a Zola ouais, dans le 91, ouais. Alors pourquoi pas. Ok, donc 50 Cent, très original. Du coup, son rap, on peut le qualifier de gangsta rap quand
ouais,
même.
Gangsta rap, ou gangsta rap.
Ouais, rap, ou rap de gros bras, non, gangsta rap. Vraiment.
Gangsta rap, ouais, ouais, rap de. C'est pas, pas de gros bras parce qu'on n'est pas dans du. C'est du. De la mafia, tu sais, du. Irv Gotti, ou de
trip,
ça.
Ouais, non,
c'est
et
plus,
tout.
On est plus dans du. Dans du
de la thuggerie voilà, de bas niveau.
Bah, exactement, tu sais, ils tiennent les pistolets comme ça, t'es sur le côté.
Ouais,
tu
vois. Un truc qui marche pas là.
Voilà, voilà exactement.
Ils se prennent les douilles dans la gueule.
Ouais, on est plus là-dedans.
C'est super
on
malin.
Plus, on est plus là-dedans. On est pas dans le Borsalino, puis t'es la mitraillette. Non, on est pas là-dedans. Et donc, ouais, alors, après 50, il faut dire aussi qu'il a une enfance dorée.
Ouais, bah j'imagine, ouais. Le nom du Jamaica Queen.
Sa mère était crackhead.
Ouais.
Lui, il a pas connu son père. Et il a commencé le deal à 12 ans.
C'est très classique, hein, comme.
C'est, ouais, c'est, ouais.
En tout cas, pour les rappeurs new-yorkais, c'est assez. Mère célibataire, héroïnomane et, voilà. Et père absent.
Ouais. Donc, il a été élevé par sa grand-mère. Il raconte. Donc, il a annoncé cash à sa grand-mère. Beaucoup de bois à 12 ans, je vais commencer à dealer. Et donc, il a dealé, puis il a fait donc, les allers-retours en prison, pas prison, mais pour les juvéniles.
Juvéniles,
voilà,
là, ouais.
Exactement. Donc, il a fait des petits allers-retours comme ça. Et il s'est vite fait repérer par Jam Master J.
Ah, John Master J qui est Rest in Peace, John Master J.
Oui, exactement. Sur son label, et puis il a repéré ce petit rappeur fougueux. Et il l'a invité, et la première apparition de 50, ce sera sur l'album d'Onyx. Sur un titre qui s'appelle React et qu'on peut balancer d'ailleurs.
Alors, tu me dis c'est du Onyx. Heureusement que j'entendais Fred Rostar gueuler.
J'étais en train de le retenir. T'sais. Là, j'y vais.
Parce que pour les auditeurs qui connaissent pas Onyx, la particularité du groupe, c'est de hurler dans absolument tout leur putain d'album. Donc là, c'était l'album. Il s'appelait comment là? C'était Shut and Down.
C'est voilà exactement Shut and Down.
Mais Onyx, si vous avez l'occasion, allez sur Spotify, écoutez Back Da Fuck Up et rigolez parce que c'est incroyable. Et donc là, bah du coup, c'est le titre le plus doux de l'album.
Ouais, bah exactement. Au 50 d'ailleurs, il rappe bien. Hein,
mais il avait quel âge là? Parce que du coup, il me rappelle même Fizz Blix. C'est bizarre. Tous les rappeurs de 16 ans rappent de la même manière. Ouais, retenez ça à New York. Quand t'as 16 ans, tu rappes toujours pareil. Non, il avait quel âge?
Je pense qu'il avait 20. Il avait deux heures dans la vingtaine.
Parce que là, sa voix est aiguë.
Elle est très aiguë par rapport à ce qu'il a fait ensuite.
Ce qu'il fait après.
On est un peu dans la tonalité, mais il est beaucoup plus aigu, beaucoup plus fluide, beaucoup plus, c'est comme on disait, incisif.
Ouais, un peu plus incisif, ouais.
C'est ça, exactement. Après, c'est un peu calmé. Bah, après, il a créé la marque de fabrique 50 Cent. Ouais. Il a vraiment créé son
style. C'est-à-dire un rap où t'as l'impression que le mec parle sur le côté de la boule.
Voilà. C'est ça, exactement. Alors que là, il rappe un peu comme tous les rappeurs new-yorkais.
Ouais, bah oui, clairement. Ouais.
Et donc, alors. De chez Jam Master J, donc il devait sortir un album qui n'est jamais sorti. On n'avait même pas de morceaux.
Ça il l'a enregistré quand même.
Il l'a enregistré, apparemment, il aurait enregistré un album.
D'accord.
Qui n'est jamais sorti.
Donc c'est fait chez le fait.
Ouais. Ouais. Okay. Donc bon. Là, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Mais
c'est bizarre qu'il n'y ait pas encore eu de leak.
Eh bah oui, tu vois. C'est
peut-être parce que Jam Master J s'est fait buter.
Peut-être. Ou alors peut-être.
Parce qu'on a dit Rest in Peace, mais on n'a pas expliqué, mais Jam Master J s'est fait assassiner, en fait, hein, complètement. Et les gens qui étaient proches de Jam Master J aussi ont. C'est bizarre qu'il ne soit pas encore mort, 50 Cent, d'ailleurs. C'est étrange.
Bah, 50, on se demande.
Oui, c'est vrai qu'il est pare-balles, le mec.
Tu vois?
Le mec est bullet proof.
Le mec, voilà, tu sais, je pense que tu sais, il a déjà quelques-unes.
Ouais, ouais, c'est vrai qu'il en a pris, il en a pris 9, je crois, donc, ouais.
Et là, okay. Tu te dis quand même, le mec a tiré, bon. Il devait être
tu vas tirer avec le punch sur le côté, parce que rater un mec quand tu lui mets 9 bastos et le gars n'est pas mort. C'était du petit calibre, voilà, c'est certain, exactement. mais quand même, faites un effort, merde.
Et, au même moment, juste après, c'est important parce qu'il va créer le G-Unit.
Donc, c'est aussitôt que ça.
C'est en 98. En 98, juste après la séparation avec Jam Master J, il va créer le G-Unit. Et il va créer le G-Unit avec un autre gangster que j'ai connu à l'époque, qui s'appelait Bang-M. Donc Bang-M,
Bang-M Smurf.
Voilà. Et Bang-M, c'est pour tireur, qui leur tire dessus, tu vois. Donc déjà le nom, le mec arrive, il s'appelle Bang-M, tu vois. Et on le voit dans le clip, je crois, In Da Club. Bang-M, il fait une petite apparition. Et nous, on a eu la chance de travailler avec lui. On a fait deux morceaux, Bang and Spurf.
Donc là, on parle évidemment du label de Six, hein, Get Large.
Voilà, exactement.
Get Large Records, voilà.
Et donc, il nous a accueillis chez lui, là, à Jamaica Queens. C'était super ghetto. Je veux dire, c'était, il arrivait, il sautait en l'air, il était super actif, mais un super, il était petit, hein. C'est pour ça que c'est Smurf.
Smurf, comme je trouve, ouais, parce que Smurf,
tout petit,
c'est le nom
il sautait partout. Il venait de signer de son deal avec Koch Records, à l'époque. Bang and Spurf et Domination, c'était un autre rappeur. Et il était tout foufou, il avait son contrat, il était il avait eu son avance et tout. Écoute, c'était irréel. Et malheureusement, c'est l'époque où il s'est séparé de 50. pour des questions, je pense, d'argent ou de, tu vois. Si lui considérait Mangan que G-Unit et 50 Cent
étaient chez lui.
Voilà, tu vois, c'était
sa son propriété.
Voilà, exactement, tu vois, et donc ça a un peu clashé, tout ça. 50 s'est séparé. Je pense qu'il était trop dangereux, le mec, intenable. Je pense qu'il était intenable. Vraiment, s'il était un jour, il était dans une réunion avec Dr. Dre, il aurait dit, bon, ton gars, là, où tu l'attaches? Où tu l'attaches, ou bon, tu te fais quelque chose, mais là, c'est pas possible. C'était vraiment un phénomène. Phénomène. Ah, je crois que dans le DVD, qui est avec l'album, on voit une partie où on est dans son studio, dans le Queens, où on voit Bang.
Ouais.
Ouais, il y a une petite partie où vous regarderez. Peut-être qu'on mettra un lien.
Mais du coup, ça veut dire que puisque Get Large a bossé avec Bangham Smurf, Get Large aurait pu bosser avec 50 Cent.
Eh oui, exactement. Et ça, c'est là où on arrive, parce que 50, juste après ça, il va signer chez Trackmasters.
Donc Trackmasters, qui étaient les gros hitmakers.
Gros hitmakers, Notorious Big Nas. Ouais. C'était vraiment gros. Et ils signent chez eux. Et ils avaient un autre rappeur qui s'appelait Punchline, de Punch & Words. Et nous, on a eu la chance de faire un maxi avec Punch. Et à l'époque, je me rappelle d'ailleurs, il lui fait un shout-out dans le maxi qu'on a sorti. Et on parle de 50, qui avait sorti How to Rob, ou enfin, je sais plus exactement, on en parlera tout à l'heure. Et il nous dit, ah, 50, ouais, c'est mon gars, on est toujours en studio ensemble, tout ça, ouais, bah écoute, la prochaine fois, donne-moi $500, il vient, il pose un couplet, y a pas de souci, tu vois.
Un couplet de 50 Cent pour $500.
Tu vois, c'était comme ça, tu sais, à l'époque, grand, genre, il passe, il pose son couplet, qu'il a certainement dû poser 10 fois,
ouais.
On est
ouais,
en
ouais,
$500
ouais,
à droite à gauche.
C'est un freestyle.
voilà, exactement. Ouais. Comme ils font toujours, tu vois. Après, tu le retrouves à la radio tout le temps, le même couplet, je fais bon.
Ah, tiens, ouais, il était pas que pour moi, donc, ouais, okay. Voilà. Bon, c'est pas grave.
Et, mettre $500, et deux mois après, il sort Wangsta, donc l'histoire est finie.
Et deux mois après, voilà, c'est terminé,
ouais,
parce que Wangsta, ça a absolument explosé.
C'est explosé. Et
donc, le mec, voilà, d'un seul coup, est devenu beaucoup plus cher.
Voilà. Et même mais inaccessible. Et toi, tu te dis, bon, peut-être ça aurait pas été le même 50, tu vois, mais à deux mois après,
on aurait
50, quoi. Ça restera à chaque fois, l'anecdote, le regret, tu te dis, putain, merde, sur l'album, on aurait pu mettre la sticker, plus gros que la cover.
50 Cent.
Apparition de 50 Cent,
un couplet. Ouais. Un couplet de 50 Cent.
Que vous retrouverez dans toutes les radios. Et, oui, donc, pour revenir, il sonne ici, donc, chez Trackmaster. Et là aussi, il prépare un album qui s'appelle Power of the Dollar. C'est son premier album, je crois qu'il est.
Ouais, je l'ai là.
Voilà, exactement.
Alors, il faut savoir que Six fait ses devoirs de manière admirable. On a tous les albums de 50 sur la table, là. Donc, je peux regarder Power of the Dollar. Et effectivement, c'est un album où tu sens que, bon, il y a des Trackmasters à la prod. Par contre, au niveau de l'artistique.
Et tu sais pourquoi? Parce qu'il n'est jamais sorti, cet album.
Ah, ben voilà.
Il est sorti que en bootleg. C'est un album qu'on peut
trouver
en bootleg.
Ouais, parce que j'allais
partout.
Dire, ça a été imprimé sur une Epson G, donc,
c'est voilà. C'est un album que tu trouvais partout dans la rue à $5.
Power of the Dollar, ouais, t'as ton nom. Oui, c'est un CDR, en plus.
Ah ouais, c'est ça, ouais, c'était, c'est bizarre, hein, mais c'est un album que tous ceux qui étaient à l'époque, sur New York ont eu, mais tout le monde l'a acheté en bootleg. Donc, t'imagines l'argent que ça a généré, l'argent perdu, même pour l'artiste, ou même pour Trackmaster, quoi. Parce que c'est quasiment que des prods de Trackmaster. Et d'ailleurs, sera extrait de un des premiers titre qui va faire buzzer 50, c'est How to Rob. Hey yo, the bottom line is, I'm a crook with a deal. If my record don't sell, I'm a robber still. You better recognize, nigga, I'm straight from the street. These industry niggas are starting to look like something to eat. I snatch Kim, tell Puff, you wanna see her again? Dance your ass down to the nearest ATM. I have dreams of fucking the R&B. Ah, déjà, il a son flow qu'on connaît. Ouais, ça commence à.
Il a baissé en termes d'aigu.
Exact.
Et How to Rob, donc c'est le titre complet, c'est How to Rob, an industry nigger.
Exactement.
Donc c'est comment braquer les négros de l'industrie. Voilà. Donc en gros, il explique dans ce morceau comment il braque absolument tous les autres rappeurs.
Exactement.
Actifs au même moment.
Ouais, exactement.
Donc c'est quand même une façon plutôt paisible de commencer sa carrière.
Exactement, c'est genre, voilà, c'est ça. Il arrive, il s'installe, il les pose sur la table, il fait bon, qu'est-ce qu'il y a?
Moi je te braque, toi aussi, je t'arrache ta chaîne, etc. Okay.
Voilà. C'est un titre tout en douceur. Et tellement en douceur que c'est à ce moment-là qu'il va se faire,
évidemment.
Shooter. Alors, ouais. On sait pas qui, on sait pas.
On sait juste que le mec visait mal.
Exactement. Tu vois, il va quand même se prendre 9 balles, hein, c'est ça, je crois.
Ouais, 9 balles.
9 balles. Et à ce moment-là, c'est vraiment je pense, un déclencheur pour lui.
C'est l'acte fondateur,
en fait. Exactement. Moi, je pense. Parce qu'il a tout perdu. Il était donc chez Columbia, avec Trackmaster. Ouais. il le drop, il le
lâche. Ah, le mec se fait tirer dessus dans la rue, le label dit ah ben salut.
Ouais, exactement.
Bah, sympa.
Parce qu'en fait, il considérait qu'il était trop dangereux, trop gangster, trop qu'on n'arrivera à rien avec lui.
Mais ça, c'est une aubaine pour un rappeur.
Mais oui, mais pour Colombien, pas tant que ça, apparemment. Tu vois.
Ah, putain, ils comprennent rien.
C'était alors on sait pas, ça tombe, il y avait Bang Game à côté. Il foutait le bordel, tu vois.
Il était en train de faire des saltos dans la salle de réunion. Ah,
voilà. Donc le DA était, le chef de projet était un peu choqué. Vous êtes sûr il va tenir au lustre? Tu vois. Donc bon.
Donc il se fait dropper par Colombien.
Il se fait dropper. Donc là, il 9 balles. C'est le mec qui se fait shooter. Donc là, il est au bout de sa vie, quoi.
Ouais.
Et ça va lui donner une énergie, je pense, et une envie de s'en fout maintenant, tu vois.
Alors comment du coup, donc là, officiellement, il a plus de label.
Il a plus de label, là, il est plus rien du tout.
Il a plus de label, il a fait un morceau où en fait, il insulte absolument tout le monde.
Donc il a plus d'amis non plus.
Il a plus d'amis. Et en plus, il s'est pris 9 bastos, donc limite, il a failli plus avoir de gueule.
Exactement.
Parce qu'il en a plus une dans la mâchoire.
Ouais, ce qu'il explique d'ailleurs, il explique son flow.
Pourquoi il rappe un petit peu avec la bouche de traviole. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi le.
Il lui reste une seule option, c'est la rue. C'est la rue.
Donc il s'y plonge tel Anakin dans le côté obscur. Je veux dire, là, le mec, il est dit, bon, bah, de toute façon, j'ai tout perdu. Autant y aller franco.
Exactement. Et à l'époque, s'il faut remettre dans le contexte, là, c'est le marché de la mixtape, le marché du bootleg.
Ouais.
Qui est énorme. C'est-à-dire que quand tu te baladais à New York, les rues étaient par terre, t'avais que des mixtapes. Tout le monde, tous les DJ sortaient de leur mixtape.
Ouais.
Et là, je pense qu'avec un complice à lui, Chamonix Excel, avec qui il va beaucoup bosser, beaucoup
travailler. C'est marrant, alors c'est Chamonix. Excel et non pas la station de ski Chamonix Excel, hein. Non, oui. C'est Chamonix, voilà, Excel en français du coup. D'accord. Ouais. Donc Chamonix Excel. Génial, on dirait un nom de biscuit ou tu vois. Parfait.
Ouais. Et donc il restait fidèle lui à 50.
Ouais.
Il faisait donc partie du G-Unit aussi à l'époque. Et ils décident tous les deux de se dire voilà, écoute, nique les majors, on s'en fout, nous on attaque la rue, on attaque le marché des mixtapes.
Donc, c'est en quelle année?
C'est 2001-2002.
C'est-à-dire que c'est marrant parce que si mes souvenirs sont bons et les calculs sont exacts, c'est à peu près au même moment qu'en France, on s'est rendu compte que les indés pouvaient se démerder tout seuls et que Lunatic.
Lunatic, exactement.
C'est la même période. Mauvais œil d'abord et Booba, le premier album de Booba.
Disque d'or en indé.
Ouais. Donc, c'est marrant parce que normalement, on dit que la France, c'est Booba qui disait que la France, c'est le Bronx avec 10 ans de retard. Mais là, sur le libérons-nous des majors et faisons notre taf nous-mêmes, finalement, on était kiff-kiff.
Ouais, complètement. Alors, eux, quand on parle de mixtape, c'est vraiment la rue. Il n'y a pas de.
Ouais, c'est le coffre de la bagnole.
C'est comme à la Fnac, tu vois. Alors que là, c'était vraiment, c'est exactement ça. C'est à la rue, c'est-à-dire qu'ils arrivaient, ils ouvraient les coffres, hop, je te livre 100 mixtapes, tu me donnes $500, et puis j'enchaîne avec un autre gars. Tu vois.
Alors, c'est ce qu'on faisait aussi à Châtelet.
Exactement, là, bien sûr,
Sauf
que là, c'est sur un marché énorme.
Oui, c'est New York.
C'est New York, et donc New York, donc le monde, donc le, tu vois, parce qu'il faut dire, à l'époque, Internet, je pense pas qu'on pouvait télécharger.
Si, on pouvait télécharger sur Casa, mais c'était compliqué.
C'était ouais.
Et une fois sur deux, t'avais un truc de cul à la façon que tu demandais, ou un virus. Voilà.
Ouais, c'est ça. Et donc, il décide d'attaquer ce marché, et ça va devenir vraiment le roi de la mixtape. C'est pour, sur cette période, 50 Cent, il va représenter l'artiste mixtape. C'est-à-dire qu'ils vont sortir des mixtapes tous les 2-3 mois, ça va faire des cartons, ils vont sortir des singles. À la radio, ce sera un des seuls artistes, que je me rappelle, tu vois, qui les jouait à la radio avec des titres de mixtapes, tu vois. C'est-à-dire que les Funk Master Flex, les Angie Martinez, tout ça, ils jouaient des morceaux de 50 tirés de mixtapes, tu vois. Ce qui est
incroyable. Donc c'était des trucs qui n'étaient même pas signés, il n'y avait pas de label, rien.
C'est, tu vois, ils généraient beaucoup d'argent, je pense, avec leurs affaires, on va dire. parce que c'était aussi l'époque du payola, tu vois. C'est-à-dire que tu donnais un disque, tu donnais de l'argent, mais c'était comme ça que ça se passait, tu vois.
Ouais.
À un DJ, tu donnais ton disque, tu donnais de l'argent, et le DJ te jouait.
Ça s'appelle un pot de vin, en fait.
Ouais,
un
voilà, exactement.
Table,
voilà.
Ouais.
C'était courant. C'était comme ça que ça se passait dans tous les shows, tu vois. Et puis, donc, il fallait que, si tu voulais faire tous les DJ, parce que nous, en France, on a des radios nationales, mais eux, ils ont pas des radios nationales, ils ont des radios
locales.
Ouais. Donc, ils faisaient des tournées, ils avaient des genres de stagiaires qui tournaient, qui faisaient toutes les radios aux États-Unis et qui donnaient le CD avec le petit billet. Et c'est comme ça se passait. Et il fallait budgétiser, moi je me rappelle. Quand on a voulu, mais vraiment, quand on a voulu sortir le maxi, on nous a dit, bah, écoutez les gars, il faut aussi penser au budget DJ, qu'il faut leur donner $500, $1000, si vous voulez qu'ils vous jouent.
Ah, carrément.
Ah, carrément, c'était, mais ça a fait scandale quelques années après, mais c'était rentré dans les mœurs de. Ça fait partie du marketing, tu vois.
D'accord. Et ça se fait plus par contre, du coup.
Ça se fait plus officiellement.
Ouais,
plus officiellement parce qu'il y a eu des excès, je pense qu'il y a eu Voilà, les maisons.
J'imagine qu'un Funkmaster Flex, il a dû acheter une maison secondaire.
Ah, mais bien sûr, mais Funkmaster Flex, c'était le roi.
Tout ça pour qu'en plus, le mec te saccage ton morceau à gueuler Funk Flex pendant une demi-heure.
C'est vrai, en plus. Funkmaster Flex now. Funkmaster Flex now.
Oui.
Ah, mais c'était insupportable. Putain, et ça, entre deux pubs, hein. Tu sais. Parce que faut pas savoir que tous les 30 secondes, ils balancent une page de pub, tu vois. Et un petit jingle comme nous, tiens.
Welcome to the show. Fix and Dash Hip Hop Show. Bringing you the best. Bringing you the best in hip hop.
Ah yeah, je crois qu'on va faire quand même une version un peu courte de ce jingle parce qu'il dure 20 plombs.
Mais là on est dans l'ambiance. Là on est vraiment dans l'ambiance.
Là on est dans l'ambiance Hot 97, voilà, Power 105 et tout ça.
Exactement.
Et alors mixtape.
Il décide de prendre le marché de la mixtape à bras le corps.
Ouais.
Donc là je pense qu'il faut un gros coup parce que ça va le crédibiliser, ça va le crédibiliser auprès du public.
Qu'est-ce qui différencie? Est-ce que en termes de qualité de prod? Parce qu'il y a une chose, c'est le rythme de sortie.
Bien sûr.
Donc, effectivement,
sûr,
ils ouais. inondent le marché tous les trois mois, le mec qui sort
une tape. Il prend les phases B aussi. Hein. Il prend les instrus.
Ouais, il prend les instrus des autres. Exactement. Et en plus, il déclarait. C'est l'intérêt de la mixtape, c'est de pouvoir faire absolument tout ce qu'on veut, puisque rien n'est déclaré.
Ouais.
Mais du coup, en termes de mastering, d'engineering et tout, c'était propre ou...
C'était propre, hein. Ouais. Moi, je les ai, les mixtapes du G-Unit, les G-Unit Radio, je crois, ça s'appelait. Et elles sont vraiment propres, c'est bien, c'est... En mix, c'est aléatoire. Les voix, je t'avoue que ça dépendait le studio, quoi. Ouais. Mais c'était propre,
mais
c'était
écoutable. Voilà. C'est pas...
Après, une mixtape, quand t'achètes une mixtape de 50, il faut pas que ce soit propre non plus, ça. À l'époque, il fallait que
Un côté un peu grimy.
Voilà, tu vois, il fallait que t'aies ta petite rayure sur le CD, quoi. Tu vois, c'est. Et donc, c'est à ce moment-là, c'est ça qui est étonnant aussi, c'est qu'il est en indé. Il sort une mixtape et il va sortir un morceau qui s'appelle Wangsta.
It's 50, aka Ferrari, F50. Break it down. I got a lot of living to do before I die, and I ain't got time to waste. Let's make it. You say you a gangster, but you never pop none. You say you a wankster, and you need to stop frontin'. You ain't a friend of mine, you ain't no kin of mine. What makes you think that I won't run up on you with the nine? We do this all the time, right now we on the grind. So hurry up and cop and go, we selling nicks and dimes. Shorty, she's so fine, I gotta make her mine.
Aïe,
ça c'est le son d'As, ça. Je le sens, je le vois.
Putain, mais l'instru, on dirait une sonnerie de téléphone. Tu sais, le réveil que t'arrives pas à éteindre le matin, t'as envie de le tuer tellement c'est horrible. Ouais. Et puis là, on a vraiment son trademark de flow chantonné.
Exactement.
Voilà, il suit la mélodie et après il va plus jamais s'arrêter de suivre la mélodie pendant tous les autres morceaux.
Ouais.
Mais, donc c'est alors rappelons-le, c'est avec ce morceau-là que le mec est devenu impossible à atteindre pour Get Large.
Ah oui, à partir de là, de tous les morceaux que j'ai entendu jouer dans les clubs, dans les voitures, dans les magasins, quand tu rentres dans un magasin, c'est le morceau le plus joué. J'ai jamais entendu un morceau jouer autant.
C'est vrai?
Il y avait une période où c'était omniprésent. Toutes les voitures
jouaient. Le supplice. Et j'aime le rap. Hein. Mais ça, pour moi, c'est une torture.
Ouais, mais c'était.
Parce que l'instru, je la trouve à chier.
Ouais. Et moi, tu sais, en plus, je vois tellement, tu sais, à l'époque, c'était les jantes, les wheelers, tu sais, les jantes qui tournaient.
Les spinners, voilà. Les jantes qui se tournent même à l'arrêt.
Caricature, tout le monde avait ça, quoi. Tout le monde.
Avec les gros escalades.
Voilà,
les Cadillac escalades, donc les gros 4x4.
Et voilà, tout le monde jouait moins que ça. Alors, je pense qu'il devait y avoir une basse qui faisait que ça faisait.
Ouais, ça faisait vibrer les sound systems.
Et c'était impressionnant. Moi, je me rappelle, j'ai des visions de me dire, putain, mais c'est omniprésent partout. Et donc, en indé, tu vois, en sortant une mixtape. Et c'est à ce moment-là que je pense, en ayant fait un petit peu de buzz, il est tombé dans les oreilles d'Eminem.
Mais alors, c'est cool, juste avant qu'on continue sur sa carrière, je trouve ça cool que les radios, à l'époque, à New York, jouent réellement le rôle de prescripteur. C'est-à-dire qu'ils se contentent pas simplement de servir la soupe en sortant les artistes qui sont déjà connus et qui sortent, machin. Là, il y avait un vrai travail de curation. Ils allaient chercher des mecs pas connus. Bon, 50, et du coup, ils sortaient une mixtape tous les trois mois. Donc, c'était le plus connu des pas connus.
Oh, ouais, exactement.
Mais je veux dire, je trouve ça cool, tu vois, que les radios regardent la scène indé, regardent les mixtapes et fassent leur taf, en fait.
Et
c'est quelque chose qu'on perd de plus en plus parce qu'on avait ça à une époque avec 88.2
génération.
Avant que ça devienne un sous ado FM. Et voilà, c'était mon coup de gueule. Moi, j'aimais bien les radios avec des DJ qui allaient dans la rue chercher des trucs.
C'était ça, même à l'époque, quand je regarde Sky, les émissions du soir. Ça s'appelle.
Ouais, toutes les émissions de
exactement, toi.
Ouais, mais bon, c'était à minuit, quoi.
C'était à minuit. Ouais. Mais il y avait quand même ce côté.
Après 4 heures de D-Fool qui explique à un gamin de 15 ans comment se masturber, tu dis bon, les gars.
Par exemple, putain, mais des fois, t'étais là, tu te dis putain, mais. T'attendais ton émission, t'attendais ton. T'es couvre, enfin, allez, couvre-toi. Bon. Ouais, mais t'entendais avant, il faut bien se couvrir.
Bref, fin de la digression. Donc voilà, là, exactement. On reste sur 50 ou Angsta. Ouais. Et alors, la suite.
Donc là, Eminem va rentrer dans la picture. Et ça va changer sa vie. À partir de là, ça va changer sa vie. Et on se demande même si tout n'a pas été fait pour l'arriver jusque-là. Parce que Eminem va le prendre et va l'emmener chez Dr. Dre.
Et là. En général, quand on te prend en tant que rappeur et qu'on t'emmène chez Dr. Dre, c'est pas pour prendre du sur une trajectoire, sur une trajectoire de la réussite, voilà. Hein.
Et donc, ils vont faire une grosse pub sur son deal. C'est parce qu'il va signer le million dollar deal. C'est ce qu'ils nous appellent. À l'époque, c'était pas si courant que ça. Maintenant, c'est vrai qu'un million de dollars pour un deal. C'est normal. Mais à l'époque, je me rappelle, quand il c'est le million de dollars deal, il en faisait, il allait à la radio, ouais, j'ai signé le seven figures deal, blablabla, million dollar deal. Ça faisait partie du marketing. Tu vois, il a signé un gros deal, c'est le prochain gros, c'est Dr. Dre, il faut mettre tout ça dans le contexte. Eminem à l'époque, c'était le grand Eminem, tu vois. Ouais.
C'est Eminem, quoi.
Ah ouais.
Ouais. Parce que moi, j'avais le Eminem dont je voyais les pubs pour les albums indés qui étaient dans The Source.
Ouais, oui.
C'était le Eminem qui ressemblait à un Chicano, sa voiture et la pochette merdique, là. Ouais. Et du coup, là, c'est le Eminem Marshall Mathers, quoi.
Voilà, exactement. Là, c'est
Slim Shady, déjà.
Ouais, c'est ça,
Ouais. Et donc ça, du coup, ça donne quoi? Ça donne l'album.
Ça donne l'album
Get Rich
or Die Trying.
Or Die Trying. And you know we don't give a fuck, cause that's your birthday. You'll find me in the club, bottle full of bub. Look, mommy, I got the ex, so get into taking drugs. I'm in the having sex, I ain't in the making love. So come give me a hug. On a même pas écouté le couplet.
Non.
Mais ce morceau, déjà, rien que là, tu sais que le mec, il part vers les étoiles.
Ouais, là, c'est...
Franchement, c'est à ce moment-là que nous, en France, côté grand public, on l'a vraiment commencé à entendre parler de 50. In the club. Mais le single, parmi les singles.
Ouais, franchement, je pense qu'il est au portillon des singles. Ouais. Une efficacité, mais
tout marche. Tout marche. Même le clip avec Tony Yeo, les gestuels et tout.
C'est
tout ce qu'il fallait, là. Franchement. Ouais.
Il va arriver, il va faire ce que beaucoup considèrent un classique. Hein. C'est le premier album de 50, Get Rich or Die Trying, c'est considéré comme un instant classique.
Enrichis-toi ou meurs en essayant.
Ouais. Et quelque part, c'est sa philosophie à 50. Il est passé par. Donc là, tu vois, il balance tout, il vit son truc. T'as l'impression que quand il fait cet album, ça pourrait être même son dernier album. Il fait l'album complet, il raconte toute sa vie, toutes ses histoires, toutes les histoires de rue, tout. Après, tout ce qui va arriver derrière, ce sera de la redondance. Ce sera toujours la même chose, tu vois. L'album qui qualifie 50, le flow, comme tu dis, les refrains chantés.
Les couplets chantonnés, hein, lui, il fait toute la chanson chantonnée.
Exactement. D'ailleurs, il a un côté, sur la prod, Dr. Dre, tout ça. Il y a un côté West Coast, dans son rap.
Le son, c'est du fond West Coast. C'est le son West Coast du début des années 2000.
Ouais,
c'est la West Coast qui essaie de se réinventer, justement, avec Dr. Dre aux manettes, dont on attend l'album Detox à l'époque.
Il arrive.
Et donc, on l'attend toujours. On est en 2019. Bon, voilà. Donc, en fait, on l'attend plus. Mais 2003. Et en plus, donc c'est produit chez... Enfin, ça sort chez Aftermath Records. Eminem Dre, quoi.
Ouais, et donc, moi, mon morceau préféré là-dedans, c'est If I Can't.
Alors, qui est-ce qui a produit? C'est Dre aussi.
C'est Dr. Dre. Je crois que la moitié des titres.
Denon Porter et Dr. Dre. Rock Wilder quand même. Okay. En gros, sur cet album, qui a quoi? Il y a 15-16 titres.
Ouais.
Il y a 15-16 singles.
15-16 singles, il y a PIMP, 21 Questions, Many Men.
T'avais prévu de le faire écouter, PIMP, ou pas?
Non, mais
alors on le mettra dans la playlist.
Voilà, exactement, on va leur préparer une bonne petite playlist.
21 Questions avec, évidemment, refrain man, Nate Dogg.
Ouais.
Pour ceux qui ont écouté Californie, du coup, ça fait un pont total. Parce que là, évidemment, Nate Dogg est au refrain. Voilà. Et c'est un morceau où 50 se pose plein de questions sur la vie en général. Hein, et puis sur les femmes. Est-ce que tu seras fidèle même si j'ai plus d'argent? Parce que bon, il y a quand même des questions d'importance. Mais en gros, ouais, chaque morceau, enfin quasiment un morceau sur deux sur cet album a été single.
Ouais, exactement. Ouais. Je crois que les chiffres de vente sont énormes.
Il est multi-platine. Hein.
Ouais, il est multi-platine, même multi-diamant. C'était full diamond.
On le rappelle, quand on parle de platine or diamant, c'est à l'échelle américaine.
Voilà,
donc
exactement.
C'est autre chose que nos 10 000 ventes françaises.
Ouais, hein. C'est 500 000 gold, ouais. Et 1 million
platine. Platine, c'est 1 million de ventes.
Ou...
Non, c'est ça.
C'est ça, ça.
Ouais. C'est 1 million platine.
Ouais. Donc bon. C'était 10 millions diamond. Ouais, 10 millions. D'accord. T'imagines 10 millions
sur un album.
Bon, ouais, nous, on a fait deux fois ça avec le premier album, mais donc je peux en parler facilement. Tu vois, pas de... c'est bien que j'ai trop mis dans un jingle. Enfin, bref, c'est une
oh, mais... Et alors, est-ce que du coup, donc là, toi, tu disais cet album Get Rich or Die Tryin, qui est vraiment l'album symbole pour 50. À partir de là, en fait, il capitalise sur sa marque.
Ah, bien sûr. C'est moi que je dis tout ce qui arrive derrière. C'est du copier-coller.
Ouais.
C'est vraiment, si t'as cet album-là, après derrière, bon, c'est juste pour changer les instrus, quoi. Mais sinon, c'est les mêmes histoires, c'est le même bound, c'est le même flow.
Parce que là, en fait, comme, c'est un album qu'on dit multi-platine.
Ouais.
Tu vois, autant quand on parlait du premier album Power of the Dollar, donc qu'il avait fait chez Columbia avec Trackmasters avant de se faire shooter.
Ouais.
Et de se faire shooter du label,
ouais.
Du coup, je voyais quand même que bon, il y avait du Noriega, il y avait du Destiny's Child, il y avait quelques feats.
Ah ouais.
Là, en fait, sur Get Rich or Die Tryin, qui est le vrai album de Major,
ouais.
Produit
ouais.
par Dr. Dre, finalement, en termes de featuring, il y a que des mecs du G-Unit,
ouais.
Et Refrain Man, Nate Dogg,
ouais.
Et Eminem.
Ouais, ouais, exactement. Ouais,
c'est-à-dire que le mec, il se mélange pas, il essaye même pas d'aller chercher...
Mais il
n'a
pas besoin, en fait. Ouais. Pas besoin. Au niveau où il est, quand t'as Inda Club qui arrive...
Ouais, mais tu peux dire, je tends la main à d'autres artistes new-yorkais, que ce soit des rouleaux compresseurs ou des mecs pas connus. Mais là, non, en fait, là, je vois Tony Yeo de G-Unit.
Ah oui. Ils sont restés en famille.
Lloyd Banks, G-Unit. Ouais. Young Buck, G-Unit.
Ouais. Ouais,
donc là, clairement, c'est... il annonce.
Il annonce, c'est du marketing. Hein. Il annonce quoi? Il annonce l'album G-Unit juste derrière. Quoi.
Ouais, d'accord.
C'est vraiment ça. Je pense que tout est fait pour vendre et faire de l'argent.
Ouais, donc là, c'est le market.
Ouais, c'est le market. Et quand t'es chez Dr. Dre, quand t'es chez Interscope, le but, c'est de vendre un maximum et de préparer. Tu sais, c'est comme au billard, quoi. Il y a deux coups d'avance.
C'est
un album, il est sorti, mais parce qu'on a le G-Unit qui arrive derrière.
Ouais.
Et qu'après, il y a les solos G-Unit. Et qu'après, il y a le solo de 50. Et qu'après, c'est la section d'assaut, quoi.
Ouais, j'aurais plutôt dit Wu-Tang, mais ok. Ça marche aussi avec la section d'assaut, qui est, alors, je le reconnais ici, que ça serve de mémoire sur un blog que j'avais avant de l'atomiser, car j'ai atomisé absolument tous les blogs.
Attention, c'est pour revenir maintenant, on a vu c'est l'actualité, attention.
Eh bien, j'avais dit que Section d'Assaut me faisait penser au Wu-Tang. Les Sections d'Assaut du début, voilà, je le dis.
Non, mais
je l'assume.
Mais, non, mais complètement, je suis d'accord.
C'était avant Maître Gims en solo et Black M, hein, mais les premiers morceaux de Section d'Assaut, je le dis, voilà, pour moi, c'était le Wu-Tang à la française.
Ah, mais complètement.
Avec l'envie de kicker et 170 rappeurs, on savait pas qui était qui, voilà. Et des whack, un peu comme le Wu-Tang.
Ouais,
voilà.
Bien sûr.
Donc voilà, je le dis, fin de la digression.
C'est fait, comme ça, on ne viendra pas te le reprocher. Voilà.
Voilà. Donc, du coup, ensuite, après donc ce Get Rich or Die Tryin, évidemment. Donc ça, c'était quand? Tu dis, c'était février 2003. Hein.
Ouais, c'est ça. On est 2003, début 2003.
Donc là, les mecs, ensuite, ils occupent le terrain avec tous les singles qu'il y a sur cet album.
Tous
et
les
puis
singles.
En novembre 2003, boum.
Et sort l'album G-Unit.
Ça alors.
On s'y attendait pas. Franchement, moi j'étais surpris, j'étais là, je
m'attendais. On l'a cet album, c'est celui-là?
Ouais, c'est celui-ci.
Ah là là. Beg for Mercy. Et alors, sur la pochette, les auditeurs peuvent pas le voir, mais évidemment, donc 50 est accompagné de Young Buck, Lloyd Banks et Tony Yayo. Et puis il porte surtout un t-shirt avec écrit Property G-Unit 50 parce que le mec, en plus de la musique, il s'est dit, ça serait pas mal de faire du merch.
Et oui. Et là, on est en full 360,
transmédia, crossflex.
Voilà, non, mais c'est important parce que c'est même à l'époque où il crée le site internet This is 50.
Ouais.
Qui va devenir une plateforme majeure. C'est à l'époque, This is 50 en 2003, 2004 et 2005, c'était, si tu voulais écouter de la musique, This is 50, c'était une grosse plateforme. Après le marché de la mixtape, il a réussi à recréer quelque chose, un buzz, en profitant des blogs, tu sais,
ouais,
au début,
tous
les artistes, voilà, exactement. Et il a créé This is 50, qui va devenir une énorme plateforme. Je me rappelle.
Une plateforme, mais alors, il faisait quoi avec This is 50?
This is 50, il balançait, alors, il balançait tous en exclusivité les nouveaux morceaux, ouais. Les nouvelles mixtapes, il balançait aussi sur DC Shifty, et il lançait aussi pas mal de nouveaux artistes.
C'était des mecs, bah c'est un peu ce qu'a fait Booba avec Au Calme.
Ouais, voilà, exactement. C'est un peu ça, avec des émissions de radio. DJ Wookie avait son émission aussi sur DC.
Donc là, réellement, par contre. Ouais. Ce qu'on a fait en France, c'était le Bronx, enfin le Queens, avec 10 ans de retard.
Ah ouais, okay. C'est ça, c'était exactement ça. De toute façon, quand une recette marche,
après, effectivement.
Ouais. Moi, en fait, c'était tellement, tellement lourd à une époque qu'ils avaient, donc pas loin de Times Square, ils avaient carrément deux étages dans un building.
Ah ouais.
Oh, c'était hyper lourd.
Ah, c'est à l'américaine.
Ah, tu ouvrais l'ascenseur, je connaissais un DA ou je sais plus qui je connaissais là-bas, et tu ouvrais l'ascenseur et t'avais. Avant là, donc il y avait la porte 50, DC 50, et t'avais un grand carton, ouais. Et les gens pouvaient laisser leur maquette.
Ah, génial!
Et le carton était rempli, je sais pas, de 100, 200 CD de maquettes. Ouais. Les gens, ils venaient, et tu rentrais pas dans DC 50, ouais. Tu prenais l'ascenseur, et tu laissais ta maquette dans le carton.
Ta maquette dans le carton.
Et c'est génial. Alors, donc les DA, je sais pas comment ça s'appelait ça, ils écoutaient de temps en temps, puis ils mettaient sur le site quand ça leur plaisait, tu vois. C'était une façon de.
Ah, putain, c'est génial.
Ah, ouais. C'était ouf, tu vois. C'était ouf quand tu penses. C'était, là-dedans, il y avait peut-être eu des gens après qui ont cartonné, qui ont explosé, ouais. Tu vois, qui ont reposé leur CD dans le carton.
C'était. Donc ça c'est marrant alors parce que sur son album solo il pousse son équipe G-Unit, mais une fois que G-Unit est posé, là du coup il ouvre la porte, enfin non du coup parce que la porte restait fermée, mais ouais. Il ouvre le carton pour que n'importe qui puisse
Dropper sa maquette. Et... C'est une façon aussi de rester au contact de la rue.
Ouais c'est ça, d'avoir un œil sur ce
qui se fait. Exactement, puis ouais. Il est jamais à l'abri de, voilà, ou alors de pousser ou de le détruire, tu vois.
Ouais.
Parce qu'avec 50, on sait jamais.
Ouais.
Tu vois, tu sais, voilà, 50 est toujours... Et donc l'album G-Unit va sortir.
Ouais.
Bah, bel album, hein, gros album avec le morceau Poppin' Dem Tank d'ailleurs.
Mais il rappe à un moment donné dans ces trucs ou c'est que des putains de refrains qui tournent pendant 4 minutes.
C'est vrai que c'est quand même des putains de refrains. Qui,
ouais. Qui, et puis toujours des notes de piano là. Ah ouais. Les gars, ça fait 5 ouais. Morceaux qu'on entend
c'est
à la suite.
C'est le début de Scott Storch hein, d'ailleurs. C'est ouais. Le premier gros. D'ailleurs à l'époque on avait du mal à différencier Scott Storch, Dr. Dre.
Ouais, bah oui.
Parce que c'était le keyboard.
C'est le même piano.
Ouais, exactement. Bah, je crois que
le même clavier.
Style Dre, je crois que c'est comme ça qu'a commencé.
Bah oui, justement. Dre il a dit, putain, c'est pas mal le clavier là. Bah tiens, on va le faire tout le temps. Et du coup, ouais, donc là, tu me dis Poppin' Them Things. Ouais, c'est Dr. Dre, Scotch Storch. Ouais, ok.
Ouais, c'était vraiment au début.
Donc, c'est encore une prod millimétrée, surmarketée.
C'est chirurgical. C'est vraiment la frappe. Voilà.
C'est vraiment. Il n'y a rien qui est laissé au hasard là-dedans.
Comme tu dis, refrain chanté. Ouais. Bah, alors, aujourd'hui, avec le recul, refrain chanté, tout le monde le fait. Mais à l'époque, c'était pas si courant que ça, tu vois, surtout
non, c'est
au niveau
pas
du
refrain
rap,
chanté. Hein. Attention, c'est refrain oui. Chantonné.
T'as raison de, c'est pas la même chose.
C'est pas pareil. Refrain chanté, c'est Nate Dogg, ouais, tu vois, c'est des mecs qui chantent.
C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai.
Bon, là, c'est ouais. Chantonné. C'est-à-dire, voilà. C'est le rappeur qui dit,
tu vois, c'est exactement ça. C'est vrai.
Et donc, cet album-là, il cartonne. Oui, voilà.
Ça, c'est, là, on le sait dans le journée du jeu.
Et alors, moi, c'est là que, parce que moi, très sincèrement, 50, c'était clairement pas ma tasse de thé. J'ai kiffé une Da Club normale. Moi, le son, justement, le nouveau son de Dr. Dre, en tant que fan de la première heure de The Chronic, c'est quelque chose que j'ai eu du mal à accepter. Ouais, ouais. Même si Chronic 2001 était très cool, mais moi, après, c'est prod qui donnait justement à Eminem et à toute sa clique d'Aftermath. Là, j'étais pas super fan.
Les quatre accords de piano,
quoi. Ouais, ben voilà, je reconnaissais la puissance du truc, mais vraiment, moi, ça me parlait pas. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à regarder un peu ce qui se faisait du côté de G-Unit, là, et j'ai commencé à voir The Game rentrer là-dedans,
ouais, exactement,
machin.
Exactement.
Donc, ouais, en fait, truc, le mec, il a marketé son crew comme une franchise NBA, quoi.
C'est exactement ça. Franchement, c'est une super définition. D'ailleurs, ça, c'est marrant que tu fasses ce rapprochement parce que c'est à la même période, il y a plein d'agents, de managers qui deviennent aussi, tu sais, managers de basketteurs, de toi. Il y a toute une stratégie qui devient vraiment. On gère un rappeur et on gère un label comme on gère une franchise
NBA.
Ouais, donc là, avec les vêtements, avec la musique, ouais, avec l'image.
Il y a le 360, mais parce que sur son équipe de base, c'était Tony Yeo et Lloyd Banks qui sont ses potes.
Voilà, de quartier.
Mais après, on a Young Buck. Et lui il vient du Tennessee,
ouais, exactement,
ou
ouais,
Kentucky, ou je sais pas où
il vient, mais il vient du Dirty South.
Et donc après on a The Game qui
The
vient
Game,
de Compton,
qui, voilà, exactement, qui était signé, je me rappelle plus s'il est signé chez Dr. Dre.
Il était signé chez D. Aftermath.
Voilà. Voilà, exactement. Et donc il rejoint G-Unit, je pense par marketing. Hein.
Ouais, bah oui,
parce que je pense pas que The Game, G-Unit, ça. Il a jamais montré de l'amour vraiment pour le G-Unit, ce game.
Bah, d'ailleurs, il a montré de la haine après.
Ouais, voilà, voilà. Alors, gros single, hein, ils font le premier titre.
Ah, bah, c'était Hate It or Love It.
Voilà. Ouais. C'est
ouais.
Ça,
ouais. Ça, on l'a pas.
Ouais. Non, on l'a pas.
C'est dommage parce que c'est, pour le coup, c'est un sample des Tramps. Ah ouais. Rubber Band que moi Excellent. Je trouve mortel. Donc, là, pour le coup, tu ouais. vois, j'ai entendu ce morceau, je fais, quoi? Ouais. Et après, le mec, il dit G-Unit. Mais pourquoi il dit G-Unit? Il est con, quoi? C'est un mec de Los Angeles. Et c'est là que.
Ouais. Ça a toujours fait ça.
Ah, mais non, il est signé avec. D'accord.
Ça a toujours fait pièce rapportée. Enfin, pour moi, la signature de The Game, ça faisait trop. Là, c'était genre, les gars, c'est voyant, là. Franchement.
Oui, voilà, c'est ça. Il n'y a rien de spontané.
Il n'y a rien de spontané.
Clairement.
Sentez que ça sortait d'une santé de réunion, chef de projet, genre bon les gars, on a G-Unit d'un côté, on a The Game, Dr. Dre, vous mettez tout ça sur un CD. Je veux pas savoir, vous mettez G-Unit avant ou après, je sais pas. Et
bah justement, on arrive à l'adjonction donc de The Game et puis au beef.
Voilà. Donc il y a un sujet
à la grosse embrouille. Donc là encore, hein, c'est un peu un beef type Boubacaris. Mais 10 ans avant.
Ouais, c'est ça. Et
15 ans avant même, parce que c'était quoi? C'était ouais. en 2004.
Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. ouais.
Donc et 15 ans avant.
Moi, bon, aussi pour l'avoir vécu là-bas, il y avait souvent des rixes, les gens se frappaient, ça se tirait dessus entre les. C'est, il faut remettre dans le contexte, c'était un bif. Sérieux?
Ah oui.
C'était.
C'est-à-dire avoir Tupac qui se fait allumer la gueule et puis Biggie deux ans après, même pas un an après.
Ouais.
Ça n'a pas suffi en fait. Les gens.
Je pense que c'était des grosses équipes. Je pense que The Game était bien
ouais,
entouré.
Oui, ouais.
Et que 50 de son côté aussi, tu vois. Et quand ça a clashé, je crois que c'est une question de beef. Je crois qu'à un moment, 50 il est rentré en beef avec je sais plus quel rappeur, tu l'en as fait tellement, tu vois, ou Fat Joe ou Jet Akis, et il a demandé à The Game de le rejoindre. Bon, d'ailleurs ça nous rappelle une histoire.
C'est exactement l'embrouille Boubacaris, quoi.
Exactement.
C'est-à-dire que
voilà, c'est ça.
La tête de pont demande à son poulain de l'épauler. Le poulain dit bah, c'était histoire, je m'en bats les couilles.
Exactement, c'est ça, c'est exactement.
Ce qui est vrai dans l'affaire The Game, parce que demander à un mec de Compton de venir te baquer pour une embrouille que t'as avec des rappeurs de ta ville, c'est complètement débile.
Oui, complètement. Donc, et là, 50 le prend super mal. Je crois que c'est dans une interview radio où on lui pose la question. The Game fait non, moi je le connais pas.
Putain, mais c'est exactement Boubacaris, voilà.
C'est même surprenant, tu vois, le mimétisme à ce point-là. Et donc là, le premier gros beef, 50, The Game, qui va parasiter. Ça va vraiment parasiter la musique des deux, je considère. Parce que 50, il est au top. Il vient de détruire Ja Rule. Il a pris Ja Rule, il a 3 points.
En même temps, il était temps, hein, Ja Rule. Je le rappelle, Ja Rule, donc de l'équipe Murder Inc., qui finalement est, je pense, l'artiste qui a le plus capitalisé sur la mort de Tupac.
Oui.
Puisqu'il s'est dit, tiens, il y a un spot de libre pour les mecs qui mettent des bandanas sur la tête et qui font du gangsta rap. Il a complètement pris le truc. C'était même limite un copycat. Hein, à un moment donné, moi, j'en pouvais plus. Donc, je suis content que 50 l'ait réglé.
Il a vraiment réglé.
Quoi. Ouais.
On en reparlera plus tard, mais il y a pas.
Oui, il continue.
Oui, il continue, tu vois. Et donc là, premier beef. Et là, à partir de là, 50 va rentrer en guerre contre tout le monde. Bah, tu vois, ça va devenir vraiment sa spécialité, le beef. Tu vois, il va biffer, et bon, alors au début, il va gagner, hein. Forcément, puisque c'est la superstar, il est doué, il a tout le monde derrière lui, donc il va biffer Ja Rule, il va biffer Jet Akis, il va biffer 50 Cent, Fat Joe. Et c'est des beefs.
Donc là, ça reste quand même. Donc Ja Rule, Jet Akis, Fat Joe, c'est des rappeurs que tout amateur de rap new-yorkais connaît, mais ça reste du rap new-yorkais.
Ça reste du rap new-yorkais, mais ça reste du gros. Ouais. Je veux dire, Fat Joe, c'était Lean Back et tout ça. Enfin, c'était à l'époque, c'était comme.
Ouais, Fat Joe, Big Pun.
Tu vois, voilà.
Terror Squad.
C'est. En fait, je pense qu'il a eu un complexe de supériorité où c'était le roi de la ville, New York, et qu'il fallait pas qu'il y ait quelqu'un d'autre.
On rappelle quand même que à peu près à la même époque, pour le Top of New York sorti par Capone et Noriega, il y a eu Jay-Z et Nas qui se sont échangés des coups de couteau et des incivilités
bien sûr.
par album interposé. C'est-à-dire que finalement, Le mec, tout le monde se bute pour être le top of New York, je sais ouais. toujours pas pourquoi. Et 50, il arrive derrière, lui, il décide de clasher encore plus tout le monde.
Exactement. Il en remet une couche et ça va devenir une obsession. Une vraie obsession.
Ouais.
Et ça va même le conduire à une connerie, ce que je considère une connerie, c'est un beef avec Kanye West.
Donc là, là, du coup, il sort de la sphère strictement new-yorkaise et commence à clasher les rappeurs nationwide.
Exactement. Mais ça, on en parlera. C'est pas le prochain album, c'est l'album juste après. Parce que, entre temps, il va ressortir un repompé de Get Rich or Die Trying avec The Massacre. Ce sera son deuxième album.
C'est son deuxième album ouais. officiel,
ouais.
non?
Ouais, ouais, c'est celui-ci. Et là, voilà, quand je te dis un repompé.
Ah, il est encore torse nu.
Ouais, il a encore pris de la testostérone.
Ah, il a poussé à l'asthme. Putain, voilà. Ça me rappelle un autre mec bien, bien plus proche de nous. Du 9-2 Easy. Ouais, c'est ok. Il est huilé. Hein. Ouais. Et donc cet album, alors The Massacre,
voilà, qui est avec un premier single qui va pas marcher.
On dirait une outro, encore une fois. Tu vois, donc t'as un refrain avec une instru putassière, mais là, je pense que c'était encore Dre. C'est l'époque où il testait des sonorités avec trop hertz, là, des trucs orientaux
et tout.
C'est insupportable. Ouais. J'en pouvais plus. Donc pour moi, c'est encore une fois une insulte musicale, mais ok, ça cartonne.
Là, ça commence à se voir, vraiment. Là, même moi, je me disais
si c'était
bon.
Pas flagrant déjà. Bon, là.
Franchement, c'est vrai que. C'est exactement la même stratégie. C'est ouais. en version 2 ans après. C'est les mêmes couvertures, la même façon de faire. C'est son pic. Hein. Je pense que ouais. là, il est au pic de tout là. C'est
là,
le
là, on est encore en 2005.
Hein. 2005, ouais. Ouais, 2005. Ouais. Et dessus, bon, il va sortir combien, je sais pas, 5, 6, 7 singles.
Ça alors, quelle surprise.
C'est, tu vois, dessus, il y a Piggy Bang, Just a Little Bit, Disco Inferno.
Parce que là, ce qu'on a entendu, donc c'était Candy Shop.
Candy Shop, ouais.
Au cas où c'était pas clair, mais c'est répété 70 fois.
Il y a un autre morceau.
Dans le couplet, dans le refrain.
Ouais, voilà. Un autre morceau que je pense qu'on apprécie tous les deux, qui est Out of Control.
Alors là, j'attendais le clavier, ce petit cling 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 cling. Alors moi, j'aime beaucoup ce morceau parce que bah là, l'instru, je la trouve ultra efficace. Puis surtout, il y a Mobb Deep.
Ouais, oui. Et oui, parce que là, 50, il achète des voitures, il achète des maisons.
Il achète des rappeurs.
Et voilà, tant qu'à faire.
Il achète des rappeurs. Donc, ouais. Mobb Deep, hein, qui sont historiquement, de toute façon, je suis sûr, on va faire un Six and Dust sur Mobb Deep, ouais, mais oui. historiquement, qui sont les petits du Queens et de Nas.
Ouais, bien sûr.
Puisqu'ils viennent vraiment du même quartier de Queensbridge que Nas. Donc, moi, ça m'a surpris de, même si effectivement, 50 reste aussi du Queens, mais de Jamaica Queens. Ça m'a surpris de les voir s'associer. Alors, il faut dire que Mobb Deep, donc Avok et Prodigy, à cette période-là, ils sont un peu en perte de vitesse.
Ouais, complètement en perte de vitesse.
On n'est plus dans les grandes heures de Survival of the Fittest.
Non, plus du tout. Là, je pense qu'ils n'ont pas réussi à prendre le virage du nouveau son.
Ouais, comme ça, du 21e siècle.
Voilà, tu vois, c'est...
Alors, moi, je te le dis, à titre perso, ça m'aurait pas dérangé qu'ils continuent à faire du boom-bap comme ils faisaient.
Bien sûr. Bah, il y a leur petit, Infamous Mob, tous les rappeurs de
oui, Big Noid, Big Noid, Kadhafi, Tragedy.
Exactement,
machin,
voilà, tout ça. Et eux, ils vont continuer à faire du vrai son de QB, quoi.
Capone Noriega, évidemment. Et du coup, donc là, c'est une signature. Donc
opportuniste pour moi.
Si c'était pas clair. Parce que c'est pas le seul.
Eh oui.
En fait, 50 se spécialise dans le rachat de duos de rappeurs.
Voilà. C'est en fait, c'est un peu le Bernard Tapie.
Le mec, il va au lit, donc il rachète Mobb Deep.
Voilà, il rachète les rappeurs aussi.
Il rachète
de vitesse.
M.O.P. à peu près à la même période.
À la même période, quasiment.
Donc, M.O.P. qui sont des rappeurs de Brownsville, ouais.
Brownsville.
Bah oui, puisqu'ils le gueulent absolument à chaque morceau et qui sont surtout connus pour. Le morceau qui s'appelle Anti Up,
qui est un hymne,
qui justement raconte comment tu dois braquer les gens et arracher leurs chaînes. Il y a un délire d'arrachage de chaînes dans le rap new-yorkais. Je crois que c'est un gros symbole de virilité. Se faire arracher sa chaîne, c'est quand même comme si on te tirait ton pénis. Donc M.O.P. qui, donc Billy Dance et Lil Fame, qui sont évidemment des gros gueulards, parce que sur leurs albums.
C'est le Léonix 2.0, quand
même. Oui, voilà. Ils hurlent absolument tout le temps. Ouais. Mais ça marche.
Ouais, ça marche, ça marche. C'est épuisant.
C'est épuisant. Tu peux pas faire un album complet. Et je me dis qu'en concert, les mecs, ils doivent terminer à fond, parce que.
Tu te demandes, franchement. J'ai pas eu l'occasion de les voir en show, mais.
Déjà, je pense que si jamais t'as le malheur d'être dans la fosse, quand les mecs, ils font empty up.
Ouais, ça doit être quelque chose.
Accroche-toi, parce que les rappeurs te donnent littéralement un guide d'instruction sur quoi arracher à quel moment, c'est le refrain. Je pense que ça doit se lamer, mais comme jamais. Anti-up en concert, c'est. Faut pas aller voir ces gens-là, faut pas aller les voir. Donc là, G-Unit rachète Mobb Deep, M.O.P.
J'aimais le rachète, c'est ça, c'est tellement simple.
Oui, rachète, pour moi. Là, on est.
Et un petit rappeur de la West Coast aussi, Spider-Lock.
Spider-Lock qui était en beef avec d'autres mecs.
C'est plus trop l'histoire, moi, à l'époque.
Ouais, Spider-Look, il biffait, je pense, avec... je crois qu'il était chez Death Row à un moment donné, donc il a chié sur Snoop, sur Dre. C'est pour ça que je comprends pas trop comment il se retrouve...
D'ailleurs, cette signature Spider-Look, elle sera anecdotique. Je crois qu'ils vont sortir une tape...
Le mec a absolument jamais rien fait. Alors, à son crédit, peut-être qu'il s'est fait fumer. Je sais pas. mais moi, globalement, enfin, j'ai beau apprécier le rap... US dans sa globalité, il y a quand même un truc, c'est ce qu'on voit en Californie par ailleurs, c'est quand même la territorialité. Et moi, j'ai jamais cru aux alliances
East Coast West Coast,
même si effectivement c'était aussi une période où on se disait bon la Concorde, parce que la scission entre la Californie et l'État de New York a fait des morts réellement. Et donc on se dit bon à un moment donné, ok, c'est bien de se tendre la main, mais se tendre la main et faire partie du même crew, c'est différent, parce que pour moi, un crew, ça doit forcément être des mecs qui sont proches géographiquement, tu vois. Mais et j'ai du mal, moi, à avoir un rappeur new-yorkais qui signe un mec de LA. Si c'est Dr. Dre qui fait ça, en fait, il a un niveau au-dessus. Mais si c'est un gars qui réellement te parle de la rue, du Queens, machin, et qui dit dans son crew, il y a un mec de LA, de Compton, de où tu veux, c'est pas crédible. En fait, il y a un truc qui, pour moi.
Et de toute façon, ça tiendra pas. Oui. Ils vont même faire le G-Unit West.
Oh, le mec, mais il a vraiment fait des franchises. Le gars, il a franchisé G-Unit. Après, t'as vu, tu vois, je veux un G-Unit à Anchorage, en Alaska. Ok, G-Unit Mega North, vas-y, pas de problème.
Non, c'est incroyable. Voilà. Ouais. Et donc, mais ça durera pas. Parce que, comme tu le dis, déjà, il y a personne pour occuper le terrain vraiment.
En fait, c'est pas crédible.
Je pense que si t'es un rappeur de, voilà, je sais pas, il était de Compton, Spider-Lock?
Spider-Lock, je sais même plus.
Dans son quartier, il va dire, t'es chez qui? T'es chez G-Unit? Les gens, ils vont rigoler, quoi. T'as pas de crédibilité. Tu vois, ça fait vraiment, t'es signé, t'es juste un peu.
C'est ça. En fait, t'enlèves complètement la partie rue pour une partie business market qui est finalement, mal reconnue dans la rue. Alors que c'est la rue qui fait vivre les rappeurs. Donc c'est pour ça que si on prend un artiste comme Kendrick Lamar, il marche aussi parce qu'il est chez Top Dog Entertainment. C'est des mecs de Compton, c'est des Pyrus. Ils ont signé J-Rock. Ah putain.
Oui.
Donc le grand Kendrick, J-Rock et puis Absol et tout ça et Schoolboy Q qui sont du coup des mecs de LA, et tu comprends qu'il y a une dynamique de groupe.
Mais complètement. Et ça se ressent, c'est dans l'énergie. Spider-Look,
50 Cent. Ouais. Donc là, en gros, concrètement, 50, dans sa partie de risque, il a fait l'erreur fatale, c'est-à-dire de vouloir conquérir trop de territoire avec une seule armée à chaque fois.
Voilà, c'est ça. C'est exactement ça.
Et du coup, tu te fais remonter par tout le monde.
Par tout le monde. Et puis, moi, comme je dis, voilà, puis au bout d'un moment, de toute façon, tout ce qui monte, redescend. Et là, c'est là que ça commence à être la descente. Et on revient au beef. C'est le beef avec Kanye West. Je pense qu'il va signer l'arrêt de 50 d'un point de vue.
Ah, mais oui, c'était la grosse.
D'ailleurs,
les deux albums sont timés pour sortir le même jour
aussi.
Eh ben oui, mais putain. C'est incroyable. Alors attends, chez nous, c'était Booba, contre qui? Contre Rof?
Ouais, exactement.
C'était Booba, Rof.
Booba, Rof, exactement.
Ou Booba a trollé en calant sa date d'album le jour de l'album de Rof. Ouais.
Et ça, c'est un copier-coller de Kanye West, 50 Cent, qui sont sortis le même jour. 50, t'es sûr de gagner.
Sauf que là, en face de 50, c'était quel album de Kanye? C'était Graduation.
Graduation.
Il est fou.
Ouais. Non, mais c'est pour te dire.
Le mec est cinglé.
Déjà, il avait pas besoin de ça. Je veux dire, t'étais bien.
Il est mort dans le film.
Moi, je me rappelle, on était à New York à ce moment-là, le jour de la sortie. Donc, t'as les premiers chiffres qui tombent. 50 gagne.
Une élection.
Ah, c'était vraiment ça, parce que on entend, on est à New York, donc 50 gagne. Sur les premiers chiffres, ils sortent 50 gagne. Et le lendemain, on apprend que c'est Kanye West, sur le national, les chiffres globaux,
qui
a gagné, tu vois. Et alors, attention, les chiffres. Hein. C'est genre 1 million, premier 3 jours pour Kanye West, et 900 000 pour 50, tu sais, les 3 premiers jours. Genre, des chiffres complètement ouf, tu vois.
Alors, c'est les chiffres des trois premiers jours, c'est-à-dire exactement comme dans le podcast game. C'est ton audience, c'est les trois premiers jours qui déterminent si ça marche ou pas.
Alors, donc il perd. Et là, on a beau dire ce qu'on veut, c'était le winner, il gagnait tout le temps. Et là, même si c'est à 100 000 CD, il perd. Et là, ça va.
Rappelons quand même que sur Graduation de Kanye, il y avait juste Flashing Lights.
Ouais, c'est un classique.
Can't Tell Me Nothing et tout ce bordel qui. Enfin, c'est des rouleaux compresseurs. Je veux dire, Flashing Light, tu t'allumes la télé, tu l'as dans une pub Chanel, tu vois. Donc là, clairement, le mec s'est attaqué quand même à plus gros que lui.
Enfin, oui, voilà. C'est lui, je pense qu'il s'en doutait pas. Je pense qu'il était persuadé, tu sais, que voilà, il sortait de The Massacre. Take Candy Shop, tous les titres. Il se dit, voilà, je continue. Et donc, parce qu'on n'a pas parlé de l'album, cet album, ce sera le troisième ou quatrième. C'est l'album qui s'appelle Curtis, je pense.
Mais c'est le quatrième, du coup, si celui-là, c'est le premier Power of the Dollar, Get Rich, The Massacre. Donc, c'est le quatrième album, troisième officiel.
Voilà, exactement.
Et quatrième au total. D'ailleurs, il se tient. Alors, sur la pochette de Curtis, c'est 50 qui se tient la tête dans les mains. On dirait qu'il a déjà les résultats des ventes. c'était prémonitoire.
Mais franchement, c'est vrai que c'est une couverture qui est pas très vendeuse, hein, tu vois. C'est après avoir bombé le torse sur tous les albums,
il était huilé en flat shading sur tous les autres albums.
Là, il se dit merde, là, j'ai fait une connerie. Sur la pochette. il va vite être consolé, attention, parce que je crois dans la même semaine ou dans le même mois. Coca-Cola rachète Vitamin Water et il se fait un 100 millions de dollars sur le deal.
Parce que Fifty avait
pris 5% de Vitamin Water.
Le mec, il a. Alors là-dessus, franchement.
Il est, oui, c'est fort.
C'est Fifty. Ouais. Le mec est fort, c'est-à-dire qu'il met de la thune dans des trucs, on sait même pas pourquoi. Ouais. Et ça devient une poule aux œufs d'or. Ouais.
Je crois que le deal à l'époque, c'était. Il avait pas accepté d'argent, mais il avait pris 5%. Et ils ont mis 5 milliards, je crois, Coca-Cola en rachetant, et lui s'est fait 100 millions en une journée, sur un deal comme ça. Alors, Graduation s'est passé un peu.
Ouais, du coup, c'est pas trop grave.
Voilà,
ouais.
Tu vois, voilà, bon.
Ça a aidé.
Et ça a aidé aussi, parce que ça lui a fait du bien, parce que bon, il sort d'une défaite artistique. 900 000, tout le monde aurait été content, tu vois, mais lui, ça reste une défaite.
Et alors là, moi, j'ai l'album Curtis dans les mains, et un truc qui me fait éclater de rire, outre la DA qui est absolument nulle, avec un lettrage gothique tout flingué du boule qui rend le truc illisible, c'est surtout un putain de badge du FBI à l'arrière de l'album. Je rappelle, hein, on achète l'album d'un gangsta rappeur, je veux dire, t'ouvres l'album... Au dos du livret, il y a deux flingues. C'est un logo deux flingues avec une branche de laurier, Southside King, d'accord. Et quand tu fermes l'album, t'as FBI anti-piracy warning. Ah ouais, c'est-à-dire que sur un album d'un gangsta rap, t'as quand même une menace du FBI qui dit attention, il faut acheter cet album, il faut pas le copier moche. C'est vraiment l'Amérique. Tu vois, c'est l'Amérique. C'est parfait. Donc, 50, 100 millions de dollars. Donc, il perd le duel avec Kanye.
Voilà. Ah, et gros single quand même, pour d'ailleurs, Ayo Technology avec Timberlake. It's right here for... I wanna see it break it down. Yeah. I'm ballin'. Money around. She a work girl, she work the pose, she break it down, she take it low, she fine as hell, she bout the dough, she doing a thing out on the floor. Her money, she make it, look at the way she shake it, make you wanna touch it, make you wanna taste it. How you lustin' for it, going crazy, face it now, don't stop, get it, the way she shake it, make you wanna hit it, then she double joint it from the waist. Ah, merci Timbaland. Ouais. Ouais. Qui a du coup trouvé un ordinateur, certainement un Commodore C64,
parce que les instruments de Timbaland jusqu'à présent c'était plutôt des bruits de bouche et des trucs chelous.
Ouais. Hein.
Voilà. Et là c'est carrément Atari 2600 pleine balle, allons-y, ça marche. Franchement ça marche de ouf, c'est complètement putassier.
Ah, mais
tu le sais quand t'écoutes.
T'avais la même chose sur l'album de Timberlake et t'as la même chose sur son solo. C'était.
Non, ça marche, c'est rien à dire.
Donc gros single quand même. Bon, tout ça l'album.
Et là
je
regarde donc cet album à la DA scandaleuse. Donc je vois effectivement un feat avec Justin Timberlake. Le mec fait aussi un feat avec Robin Thicke.
Parce que en passant.
En fait, je vais me faire tous les NSYNC en feat. Allons-y. Y a qui d'autre? Akon. Tous les chanteurs de la période. Eminem évidemment. Nicole Scherzinger, incroyable. Ok. Mary J. Blige. Vraiment bon. Ok. Donc il y a quasiment un feed par morceau hein, quand même. Enfin, ouais.
Sur ouais c'est ça. Tous les quasiment tous les. C'est si étrange d'ailleurs parce que c'était le roi du refrain, 50. Et sur cet album, quasiment tous les refrains sont chantés
c'est
par des
lui.
Chanteurs.
D'accord.
Si toi, tu te demandes peut-être une. Il allait rechercher une autre identité. Je sais pas ce qu'il a cherché.
Quelqu'un lui a dit bon, ouais, Joe, t'es gentil. Ouais. On va arrêter 30 secondes les refrains chantonnés parce que ça casse les couilles et on va laisser des chanteurs chanter les refrains.
Voilà. Voilà. C'est ça. Hein. Et c'est dû leur coûter une blinde. Ça, c'est un album qui a dû leur coûter.
Ah ben bah, ça se voit. Là. D'ailleurs, tu vois hein, que. Dans la pochette, 50 te dit « Ah putain, j'ai mis de la thune là-dedans. »
Achetez-moi, quoi.
Donc voilà.
On est en 2006, oui.
Donc il perd le duel 2007. Avec Kanye. Il se fait quand même mastune avec ses business voilà. sur le côté.
Et là, il va prendre un peu le recul.
Ah.
Il se dit quand même, là, peut-être ça fait... Parce qu'il faut... Mais imagine, on est encore en 2005-2006.
2006, ouais.
Et il a sorti en 2002 le premier album, tu vois. Donc ça veut dire que c'est 4 ans d'un...
Intense,
quoi. Ouais. C'est, je pense que même au niveau de la maison de disques, ils ont dû lui dire, bon... On prend du recul.
Ouais.
Et il va stopper pendant un an et demi. Il va sortir un jeu vidéo. Je sais pas si tu te rappelles Bulletproof.
Non, moi je me rappelle de Def Jam.
Ouais, oui, il y a aussi, mais aussi Bulletproof, un jeu 50 Bulletproof, ce sera son jeu vidéo qui va pas mal marcher. Moi je me rappelle aussi le voir dans pas mal de magasins à l'époque. Ce sont tout ce qui était 50, tout ce qui était 50 marchait. Même moi je me suis fait avoir, j'avais acheté les G-Unit Trebook. C'est la première
année. Ah, j'étais bien à l'époque.
Ouais, j'étais bien. Franchement, j'étais bien. J'étais fier de les avoir.
Aujourd'hui, tu peux plus les mettre. Mais à l'époque, des trucs estampillés G-Unit, ça passait.
Ouais, ça va. C'était.
C'était quand on croyait. En fait, c'est comme quand tu vois, t'as une nouvelle équipe NBA qui arrive, genre les Toronto Raptors de l'époque. Tu fais waouh, le logo il est stylé, ouais, tu prends, c'est... et en fait c'est des grosses merdes et ils sont nuls à chier. Et du coup t'as parié sur une équipe de tocards. Tu vois, les gens que je voyais avec les Jersey Mighty Ducks, l'équipe d'Anaheim,
ah, oui,
qui
sûr.
Était du coup sponsorisée par Disney, donc t'avais le casque de gardien de hockey en forme de bec de canard. Ok, le logo est joli, mais l'équipe est plus la merde.
Bah, ou alors les Charlotte Hornets, c'était le logo.
Voilà, Charlotte Hornets, incroyable. Une équipe qui est ultra marketable, mais c'était des tocardos. Et G-Unit, ça fait pareil, en fait. Hein.
C'est ça, c'est exactement ça, tu vois. Et donc, il prend du recul, on n'entend plus trop parler, et il va nous sortir un album.
Ah, quand même. Donc, encore un album.
Alors, je pense que je définis que c'est l'album du deal. Tu sais, t'as signé pour 4 albums.
Ah oui.
Il faut sortir l'album. C'est le quatrième. Tu vois, c'est un album qui s'appelle. D'ailleurs, le titre est marrant, c'est Before a Self Destruct.
D'accord, donc c'est avant que je m'auto-détruise. Ah ouais, depuis la pochette. Oh là là.
C'est tout ce que t'aimes, ça.
Ah putain, donc la pochette, c'est 50 avec la tête qui est en train de. On sent qu'il va exploser derrière car il est en feu, mais seulement sur la moitié du visage.
Ouais, ça fait vraiment.
C'est marrant, hein, parce que là, on a l'impression que, du coup, il régresse.
Il régresse, mais franchement, c'est pas qu'une impression, parce que même au niveau des titres, au niveau des sons, bon, il y aura un single, c'est les Baby Miami. Alors, ça ressemble déjà plus à du 50.
Ouais, dis donc, le son là. Bah non, mais alors, Ghislain ricane, mais figure-toi que c'est pas mal.
Non, c'est pas mal, mais c'est plus du 50.
C'est pas mal, c'est pas mal.
C'est-à-dire que c'est une époque où le son. D'ailleurs, attends.
Ah, mais voilà, c'est pour ça que je me disais le son. C'est Polo Dadon.
Eh oui, exactement.
Le mec qui a produit, bien sûr, In This Club de Usher.
Ouais, c'est ça.
Et c'est avec des boucles de Garage Band, hein, on le rappelle. Alors là, sur cet album, du coup, Before I Self Destruct, on a deux feats. Alors, on a Eminem, évidemment.
Neo, je pense, sur ce morceau. Neo.
Et puis, on a Neo au refrain sur Baby By Me. Ah! On a un bonus track, Could Have Been You, featuring R. Kelly. Alors, de nos jours, le fait d'avoir un titre avec R. Kelly en featuring en bonus, c'est génial. À l'époque, je pense que c'était premier degré. Hein.
Ouais, bah oui.
C'était. Hey, regardez, on a R. Kelly! Là, maintenant, tu dis non, c'est un bonus. C'est une B-side. Voilà. Donc, alors, cet album, il marche ou pas?
Eh ben, tu sais, c'est des chiffres complètement dérisoires. Pour 50 Cent, t'imagines, on parlait de 900 000 sur 3 jours.
Ouais.
Et là, il va faire 46 000. 46 000 première semaine. Donc, t'imagines la chute.
Oh là, c'est un facteur 20.
Là, c'est vraiment. On parle de 50 Cent. Hein. C'est, faut mettre dans le contexte. Moi, à l'époque, je me disais même, mais 50 Cent, il est là, il va nous squatter pendant 20 ans. Quoi.
Ouais.
On avait du mal à imaginer qu'un jour il y aurait plus 50 dans le rap game,
ouais. Tu vois, sans qu'il se fasse buter.
Voilà, exactement. Voilà, tu vois, c'était tellement omniprésent, tellement partout. Tu disais bon, il va faire comme Jay-Z quoi. Il sera là tout le temps quoi. Et en fait non, tu vois, cet album, ça va marquer la fin de 50 en tant que, pour moi, en tant que artiste, en tant que rappeur. Il va continuer ses business, hein, il va sortir des casques, il va sortir des, tu vois, il va, tu sais, dans Forbes tous les ans, tu le vois, il, ouais, je sais pas comment il fait, il va gagner 100 millions de dollars.
Network, sans, bah, je rappelle, hein, 50, là, parce qu'on est en 2019, 50, il a fait un putain de coup aussi sur le Bitcoin.
Ouais. Oui, oui.
C'est-à-dire que le mec, il avait mis, je sais pas, peut-être 30 000 dollars
à l'époque,
et du coup, il s'est retrouvé avec je sais pas combien de bitcoins, ça valait des millions.
Et
le mec, c'est ça qui est marrant,
il savait pas, je crois.
Ouais, il l'a appris par hasard, en fait. Il a fait ah putain.
Là, c'est ça qui est ouf, il a un jour,
ah,
il a
putain,
un tiroir.
En fait, putain, je viens de me rendre compte que j'avais mis 15 ou 30 000 dollars sur le bitcoin, ouais. Et du coup, ça m'a rapporté 20 millions. Voilà.
Ah, c'est ça, c'est exactement ça. Et il va aussi. Donc ça marque, pour moi, cet album-là va marquer la fin de sa période artistique, même s'il y aura un album derrière. Il y a un dernier album qui va sortir en indé, qui s'appellera Animal Ambition. C'est celui-ci.
Là, franchement, c'est un cours pour tous les graphistes. Hein. Si vous reprenez la disco qu'on vient de faire de 50 Cent, là, depuis Power of the Dollar jusqu'à Animal Ambition, sans déconner, c'est il perd des points à chaque pochette.
Bah, tu sens aussi que même les graphistes l'ont lâché, quoi.
Ouais, mais normalement, tu vois, avec des mecs comme Pen & Pixel, bon, c'est pas trop grave. Ouais. T'arrives à faire des, tu vois, Master P a fait une fortune avec des pochettes ultra merdiques. Ouais. C'était même, enfin, limite, on achetait l'album pour la pochette de No Limit, quoi. Mais là, tu vois, entre le Get Rich or Die Trying et cette tête de lion énervée, là, avec, tu sais, l'écriture un peu,
sauvage,
ouais, gribouillée, voilà, comme les groupes de hard rock, là.
Ça, c'est vraiment l'album.
Alors, il y a toujours le logo FBI, par contre, je vois plus le logo Interscope. Hein, donc, tu l'as dit, là, il était en indé. Là,
c'est en indé, c'est chez Caroline Distribution. C'est de l'indé. Il y a un titre.
Il y a Yogoti, Trey Song, Kid, Janakis. Et il est avec Janakis.
Et Prodigy aussi, je crois qu'il y a un titre. D'ailleurs, c'est le single, je crois, Chase the Paper. I'm still rolling, I need to still hold still, that's how I'm on it. You chase the hoes, I chase the paper. You chase the hoes, I chase the paper. You chase the hoes. Ouais, bon, tu vois, ça sort pas du lot, quoi.
Prodigy, enfin, et Styles P et Kid Kid en... Kid Kid, je connais pas, mais Prodigy, c'est Mobb Deep.
Tu sais que 3 ans avant, il sortait Candy Shop.
Ouais. Non, plus que...
Là, on est en... Oui. Là, on est... Il y a quand même eu un gros break. Entre le dernier album Interscope et cet album.
Il a fait quand même Fizzbleak, il a perdu son frère dans un accident de moto.
C'est tragique.
Ouais. Bon, en gros, il s'est retiré de la scène.
Je me rappelle qu'à l'époque, il annonçait tous les ans un nouvel album, quoi.
Ouais.
Tous les ans, il sortait ses titres. Il a au moins sorti, je sais pas, 50 titres entre les deux albums. Et c'était toujours sur sa plateforme, c'est 50, t'avais nouveau single 50 Cent, nouveau single 50 Cent, extrait de l'album qui arrive. Et ça sortait jamais. C'était vraiment de 2008 à 2014, donc comme 6 ans, sans album. Mais avec toujours des singles, toujours des tentatives de revenir. Enfin, ça marchera pas, ça prendra plus. Parce que.
Ouais, au bout d'un moment, les gens, ils t'attendent même plus.
Les gens t'attendent plus. Puis, t'es passé à autre chose. Comme on disait la dernière fois, la trap est passée par là, la nouvelle génération arrive. T'es plus. Si lui rappe sur un beat trap, il est ridicule. Il a un flow qui, tu vois. Donc, il va passer à côté, puis il va se concentrer sur ce qu'il sait faire. C'est un moneymaker, tu vois.
Ouais.
Il va sortir d'ailleurs une série, la Power. Une série télé qui va vraiment marcher, qui, là, je crois, ils en sont à la 6e saison, qui va vraiment cartonner les producteurs de cette série. Et c'est l'histoire d'un propriétaire de club. Et ils en sont à la 6e saison.
Mm-hmm.
Bon, je sais pas du tout ce qui se raconte à la fin, tu vois. Non, c'est vraiment le mec, il y a un club techno, tu sais, il y a David Guetta qui... On sait plus trop, voilà. Et ça, c'est toujours d'actualité, tu vois. Donc, il y aura.
Donc, en fait, le mec a chassé d'autres endeavors, comme on dit aux États-Unis. Donc, il a lâché la musique, il a compris que. Il était un
il
peu.
Il a quel âge, 50 maintenant? Il doit avoir 46, 45.
Ouais. Bah, ça n'empêche pas. Hein,
ça n'empêche pas, mais je pense.
Aux États-Unis, ça n'empêche pas.
Ça n'empêche pas, mais il a dû se dire, bon, voilà, je lâche l'affaire, quoi.
Ouais.
C'est en étant toujours dans le game, parce que je pense que c'est comme P. Diddy, tu sais, ils ont lâché, il n'y aura plus, mais.
Ils sont toujours là,
Ils sont toujours là, tu vois, t'as l'impression que.
Ils ont toujours l'oreille des A&R. Voilà.
Puis ils sont toujours aussi, il y a comme une omniprésence sur les tapis rouges, quand ils sont invités, c'est. Bah, c'est un peu comme nous, tu vois, en France, quand on veut parler du rap, on invite toujours NTM ou Akhenaton, tu vois, 15 ans après, tu vois.
Oui, alors bon. Ouais, quand même moins. Tu vois,
moins, mais il y avait une période.
Oui, oui, oui. Ouais.
C'était, voilà, c'était toujours la même rengaine quand on voulait parler. Bah, là, c'est pareil. 50, il est invité des plateaux, il fait le show.
En fait, le mec est quand même intéressant parce que là où un Jay-Z s'est acheté une respectabilité et a vraiment, lui, pris le costume du super businessman, ouais, du jour au lendemain, le mec, je pense que c'est post-American Gangster. Tu vois, où vraiment le mec, d'un seul coup, il s'est aussi habillé comme Denzel Washington dans le film.
Il devient président de Def Jam, tu vois.
Voilà, donc pour avoir vraiment cet aspect mogul, tu vois, donc vraiment grand pont de la musique, limite le parrain de la musique, où il fait des deals avec des salles, des équipes de basket, là, les Brooklyn Nets et tout ça, et où en fait le mec sort complètement du délire de la musique pure et s'imagine et se réinvente en businessman. 50, lui, il le fait au niveau des chiffres. C'est-à-dire que le mec, en fait...
Avec une image street, toujours.
C'est ça qui est marrant, c'est qu'il fait du biz avec des, à haut niveau, mais ça reste un mec en baggy jean. Et...
Ouais, vraiment, c'est la grande différence entre les deux, c'est que Jay-Z va devenir respectable.
Ouais.
Et alors que Curtis, même c'est des histoires d'amour, tu sais, Jay-Z là, avec Beyoncé, Curtis, il a des histoires de viol,
avec des chouins du quartier.
C'est des femmes qui disent, il y a 50 fils, 50 femmes différentes, t'as l'impression, tout le monde, ça reste toujours une image crade, street,
un peu,
tu vois.
Un peu street.
Voilà,
ouais.
Tu vois, ce sera la grande différence, c'est ce qui va certainement faire que...
Qu'il ira pas. Enfin, c'est marrant parce que du coup, quand on se penche sur le mec, donc, outre Vitamin Water, son truc des bitcoins, les casques, et puis même quand il était vraiment aux affaires, le fait qu'il ait marketé G-Unit comme une marque, avec des vêtements, machin, etc., d'une franchise et tout, enfin, il y a quand même cet aspect-là, businessman chez lui, qu'on n'appuie pas finalement. Alors que Jay-Z, franchement, moi, j'ai absolument aucune putain d'idée de quel deal il a signé, mais le mec se balade en Maybach, donc tu dis, ça doit marcher. Mais en fait, on n'en sait rien.
Ouais,
c'est Beyoncé qui
est super. Et Jay-Z continue à sortir des albums. Et des albums qui bon, là, c'est.
Ouais, ça fait quelques temps qu'il a...
Mais il a...
Mais après, bon, c'est vrai que quand il a fait Empire State of Mind, Alicia Keys au refrain, effectivement, on n'est pas passé à côté. Hein.
Ouais, ça, c'est clair.
Tu l'as bastonné absolument partout, même au CNIT, à la défense, tu le sortais, enfin bon, insupportable. mais tu vois, c'est marrant, parce que t'as vraiment l'impression que c'est l'habit qui fait le moine, du coup.
Ah mais complètement.
Et Jay-Z, dans l'imaginaire des gens, c'est le businessman.
Voilà, c'est le mec, respectable, tu vois. C'est qu'il peut s'asseoir à une table et discuter business.
Alors que techniquement, 50 a fait pareil, voire mieux, et en fait, on continue à le prendre pour un abruti. Ouais. Alors, à sa décharge, il entretient quand même le mythe du putain de troll.
Eh ben oui, exactement, parce qu'on en revient. Il y a encore quelques années, je crois aussi il y a 2 ans, donc tu dis Ja Rule qui n'existe plus.
Oui, c'est ça, c'est que Ja Rule, déjà, avant le Fire Festival, qui est le four ultime, où je crois que 50, justement, après le Fire Festival, a sorti un truc à base de « ça m'étonne pas », puisque c'était Ja Rule qui était au courant, Je veux dire, le mec, Ja Rule, était déjà... insignifiant, et le mec continue à lui mettre des chassés.
Voilà. Parce que donc, Ja Rule fait un petit concert, je sais plus, c'est à New York, ou ailleurs, je pense que c'est à New York. Et 50, ce troll, il achète les 20 premiers rangs, et il s'assoit au milieu. Et donc t'imagines, faut voir Ja Rule qui galère, qui fait son petit concert, son showcase. Et il y a 50 Cent qui est assis, et il y a personne, hein, parce que c'est vide, tu vois. Il a acheté les 20 premiers rangs, tu vois. Et il est tout seul, assis comme ça, et il regarde Ja Rule. Et la photo, moi, je vous invite à la regarder sur Internet. La photo est mythique,
enculé,
classique.
Génial,
donc t'imagines, Ja Rule, le pauvre, il a dû faire le concert en regardant 50. C'est énorme. Et les mecs, là, c'est un gamin, parce que, franchement,
non, là, c'est un gamin. C'est un gamin, mais avec des gros moyens. Voilà, tu vois. J'achète toutes les places, et personne vient dans ta salle.
Exactement. Ah, tout seul assis et il regarde, et c'est tellement énorme. Ça signifie, voilà, c'était, je pense que lui maintenant il a compris que c'est de l'entertainment, quoi, maintenant
c'est vraiment pour le show,
voilà. Exactement, c'est un sale gosse quand même,
hein. Non, mais là, franchement, mais 50, il faut le suivre sur Instagram, parce que il est incroyable. Et là aussi, ça rappelle un parallèle avec un autre troll d'Instagram chez nous, qui est Booba, qui s'en prend absolument tout le monde. Et 50 Cent sur Instagram, c'est une comédie, en fait.
Ouais, c'est ça.
Il se fout de la gueule de tous les rappeurs, avec des photomontages complètement claqués. Il accuse un mec d'avoir pris son flow, un autre d'avoir pris ses machins. Et ça, je l'ai fait avant toi. T'es mon petit, l'autre, il joue le jeu. Donc t'as les rappeurs qui jouent le jeu, qui font « oui, papa, machin, etc. » Enfin, il crée un genre d'univers, d'interaction entre tous les rappeurs, qui est, franchement, en tant que spectateur, t'es obligé de te bidonner.
Bah oui, mais c'est ça, c'est exactement ça.
Mais par contre, c'est vrai que musicalement,
c'est fini, hein, c'est clap de fin, je crois.
C'est calme plat. Donc le mec, il produit même pas, il essaie pas de, non, maintenant il profite de ses millions,
voilà, exactement, c'est ça. Enfin, aux dernières nouvelles, moi aussi pareil, c'est Instagram, je le suis, il y a quasiment
franchement,
musique,
franchement hein. le coup d'enfoncer la tête de Ja Rule alors que le mec est déjà en train de se noyer, tu dis
ah c'est énorme,
le mec a pas de race,
le sourire de 50 sur la photo, putain. Il est, tu sais, c'est incroyable. Enfin, franchement, c'est incroyable. C'est bravo. Et donc voilà, on arrive à la fin de
ce deuxième épisode de ce premier épisode, pardon, de Six and Daz. C'était un réel plaisir encore une fois.
Toujours, tu vois, c'est
de parcourir la lande à la découverte de ce jeune rappeur inconnu qui est 50 Cent. Et je pense qu'il y aura évidemment d'autres émissions avec d'autres artistes.
Exactement, puis on pourra même changer de cadre géographique, hein. Qui sait ?
Attends un peu. Il faut pas croiser les effluves. On va rester sur côte est, le sud.
Oui, voilà, exactement. Ouais, c'est ça que je pense. Ouais.
Ouais, pour la Californie, on laissera
les experts parler d'experts.
Voilà. Mais donc c'était la première vraie
le deuxième enregistrement
de Six and Daz. Ouais. J'espère que vous avez apprécié cette émission. Je suis obligé de faire ces petits messages. Croyez bien que je n'ai pas l'habitude de faire la manche. Mais si par hasard vous aviez un téléphone qui est capable de mettre des étoiles sur iTunes, je dis même plus la marque, n'hésitez pas à maxer. Bien sûr, vous nous faites vos retours, vos commentaires, aussi bien sur la page du podcast que sur Twitter, en nous taguant moi-même ou 6 ou Qualité. De toute façon, c'est les mêmes qui gèrent. On a un Patreon chez Qualité. Si vous voulez qu'on continue à acheter des jingles.
T'as pas rabalancé nous.
Welcome to the show. Six and Daz Hip Hop Show. Bringing you the best. Bringing you the best in hip hop. DJ
Tarinda. Oh yeah. Ah yeah. N'hésitez pas à participer au Patreon de Qualité. Hein. On travaille dur là pour cette année scolaire qui démarre. Hein. On rentre tous en 6e. Et je vous dis à dans 2 semaines.
Yes.
Ça va vite, hein.
Ça va vite. Surtout pour toi, là, j'imagine. Là.
Ah bah oui, moi, à tout le temps, en fait. Concrètement, voilà. Donc, à dans 2 semaines pour le deuxième épisode de Six and Daz.
Ciao.
Ciao.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.